because I love music. It's in my head. I can't get it out.
Here we go with Miles Davis and the quintet from Birdland with...
Hey, George, I might leave out number letter F, you know? That might leave out all this part.
The controversial Miles Davis. We call him controversial because some people like him, some people don't.
Eh bien, on va retrouver le dernier titre de la séance. Je vous rappelle quand même, pour mémoire, les protagonistes. C'est donc Miles Davis, trompette, Charlie Parker à l'alto, Duke Jordan, piano, Tommy Potter à la basse, Max Roach à la batterie, avec ce dernier thème, donc Bongo Bop. Bongo Bop, donc par le quintet de Charlie Parker. Alors, durant le second semestre de cette année 47, le succès du big band de Gillespie et du quintet de Parker ouvrait une nouvelle approche du jazz qui ne laissait pas indifférents les tout jeunes musiciens. Parmi eux, Jackie McLean, 15 ans à l'époque, se souvient d'un concert au Lincoln Square, donc une immense salle de spectacle. Il se souvient que les musiciens qui étaient là, ce soir-là, n'était autre que Art Blakey, Kenny Clarke, Max Roach, non pour la batterie, Ben Webster, Dexter Gordon, Sonny Stitt pour les sax, Red Rodney, Charlie Parker, sax alto, et non Red Rodney donc à la trompette, et Miles Davis. Il se rappelle que Miles ne joue pas avec Parker, qui loue cette fois-ci avec Ben Webster, Dexter Gordon et Philly Webster, dont d'ailleurs sera la dernière apparition. Il décédera avant la fin de l'année 47. Miles, lui, joue avec Bud Powell et ce fut l'occasion pour le public de transformer une salle de danse en salle de concert. Tous les sièges étaient occupés et disposés devant, sur la scène, à côté, pour être au plus près de la musique. Tous étaient là pour écouter, pas pour danser. C'était donc un peu la révolution dans le domaine du jazz, avec cette apparition, cette fois-ci du grand succès pour le bop, où effectivement, dorénavant, le public venait pour écouter et non pour danser. Malgré tout, il y aura donc d'autres séances de ces boppeurs émérites. La deuxième séance, elle, aura lieu le 4 novembre 1947 avec le même groupe. Et il faut dire que le titre « Clacked Overstead T » a été donné par Ross Russell, le producteur, constatant une nouvelle fois que Charlie Parker, en retard, n'avait pas donné de titre pour cette compo. Basé sur une cadence de marche, jouée par Miles à la trompette, mais avec sourdine. Charlie Parker, Miles Davis, donc avec le même groupe, avec ce titre, Clack Overstead Steen. On va donc poursuivre cette séance avec une ballade qui a pour titre My Old Flame. Et comme à l'accoutumée, elle se déroulera suivant le processus utilisé par Parker à cette époque-là. Il va exposer le thème avec quelques fioritures, puis improviser pendant environ deux ou trois mesures. Puis Davis va jouer un solo en chorus. Il va restituer la mélodie avec Parker pour terminer. My Old Flame. Thank you. Donc Charlie Parker, Miles Davis, avec ce thème My Old Flame, une très belle ballade avec somptueuse improvisation de Charlie Parker. Alors Parker se rend compte que, eh bien, effectivement, Miles est plus à l'aise quand les tempos ne sont pas trop rapides. Il va donc décider pour cette séance de poursuivre un peu avec lui, de manière à avoir cette homogénéité dans le groupe, et on va continuer avec des ballades. Et malgré tout, eh bien, il faudra deux prises pour cette nouvelle session du thème « Out of Nowhere ». Alors bien sûr, Parker fera encore une fois merveille sur ce thème-là, « Out of Nowhere », Charlie Parker, Miles Davis, Duke Jordan, Tommy Porter, Max Roach. On va donc poursuivre encore cette séance avec les deux derniers thèmes de ballade sur lesquels évidemment Parker fera une nouvelle fois merveille. Mais il faut dire que si Parker fait merveille et est content de ce qu'il fait, eh bien les autres musiciens sont un peu plus dubitatifs, considérant que Parker ne leur accorde pas la place qu'il mérite. Ce sera aussi un peu le début de la brouille entre Miles Davis et Parker, parce que Parker est de plus en plus effectivement irritable, dirons-nous, compte tenu que son addiction à la dope et à l'alcool n'arrange pas les choses. Eh bien, lors des séances, il y a parfois des mots qui fusent, des propos houleux, et les musiciens se rendent bien compte que jouer avec Parker, certes, ça leur apporte cette notoriété dont ils ont besoin, mais c'est aussi une source de conflit, et il faut qu'ils aient un engagement total auprès de Parker, parce que celui-ci ne tient absolument pas à ce que les musiciens qui sont à côté de lui prennent sa place en tant que leader. C'est pourquoi il va toujours s'efforcer d'être le meilleur de tous, et notamment cela fera beaucoup ombrage à Miles Davis, mais tout ça c'est une autre histoire. Pour l'instant, on va terminer cette séance avec deux autres ballades, Don't Blame Me et Scrapple from the Apple. Et voilà, donc c'était donc la dernière fois qu'on écoutait Parker dans cette session du mois de novembre 1947 avec son groupe, je le rappelle, composé de Miles, évidemment, trompette, lui-même donc au sax alto, Duke Jordan piano, Tommy Porter à la contrebasse et Max Roach à la batterie. Peu après cette session, dont le quintet est engagé au club de Détroit, le Saint-Sino, eh bien, Parker va arriver à Détroit. Problème majeur, c'est qu'à Détroit, il n'a pas ses pourvoyeurs habituels de dope. Et par conséquent, ça va le mettre dans une rage folle et pratiquement, bien souvent, hors d'état de pouvoir jouer sur scène. Alors, cela complique d'autant plus la tâche des musiciens que à Détroit, eh bien, pour eux, c'est une aventure parce qu'ils ne sont plus dans le contexte favorable de la 52e rue. Et donc, tout le monde s'attend à vraiment des soirées exceptionnelles. Et dans bien des cas, comme je vous l'ai indiqué, eh bien, Parker n'est pas capable de jouer. Un soir, il se pointe au club, incapable de jouer, et après une tentative d'explication foireuse avec son manager, Billy Shaw, il va quitter le club, il va rentrer à l'hôtel, et là, il va carrément piquer une colère noire, il va prendre son sax, il va le jeter par la fenêtre, il va donc le détruire complètement. Problème majeur, c'est que le lendemain, eh bien, il faut retourner au club, au Sino. Et Billy Shaw, effectivement, lui, commence à en avoir un peu marre. Malgré tout, il se dit qu'il a là peut-être le plus beau quintet de tous les temps dans le domaine du bop, et il va tout simplement, eh bien, racheter un Selmer à Parker. Tout se passe à peu près normalement, sauf qu'au bout d'un certain temps, le patron du club, eh bien, décide que c'est plus la peine de continuer. Donc, on va se retrouver un peu sur le carreau. Et que faire d'autre, sinon que rentrer à New York? D'autant que, pendant qu'ils étaient à Détroit, Ross Rossell, le patron donc du label Dial, n'a qu'une idée en tête, c'est pouvoir encore une fois enregistrer une séance avec Parker. Il va donc à nouveau choisir ce qui se fait de mieux, parce qu'il a décidé, je vous le rappelle, de faire de ces séances peut-être le sommet de gloire de Parker. Il va donc à nouveau réquisitionner le studio WOR avec le preneur de son ingénieur Doug Watkins, mais manque de peau, il va en même temps choper la grippe. Alors, il attrape la grippe, mais il a quand même une idée qui lui tient à cœur, c'est d'insérer dans le quintet de Charlie Parker, pour en faire un sextet, le tromboniste Gigi Johnson. Cette formule, d'ailleurs, à sa grande surprise, aura l'agrément de Parker, parce que Parker a considéré qu'il allait avoir un nouveau deal. Il va donc décider d'enregistrer cette fois-ci 5 compos originales et une ballade, et tout le monde est un peu circonspect, parce que un tromboniste, un cuivre de plus, ça va d'autant plus compliquer l'ensemble du groupe. Mais il en faut beaucoup plus pour compliquer la tâche de ces musiciens fabuleux, à tel point que la session d'enregistrement va durer seulement 3 heures. On va commencer cette fois-ci par tout simplement une ballade à nouveau, basée sur les harmonies de Embraceable You. Elle va être titrée Quasimodo. Et donc le sextet cette fois-ci de Charlie Parker en décembre 1947. Thank you. Quasimodo par le sextet de Charlie Parker, ça date donc du tout simplement 17 novembre 1947. Alors effectivement, en contenu de l'arrivée de Gigi Johnson, Parker a dû vraiment s'atteler à sophistiquer un peu les arrangements, et l'arrivée de ce nouveau cuivre, plutôt que perturber les musiciens présents, eh bien, va plutôt les inciter à faire d'autant plus garde à ne pas se planter, même si parfois ils auraient pu croire que Gigi Johnson est bien allé à perturber plus que ne fallait le groupe. Eh bien, il faut reconnaître que Gigi Johnson, ce n'est pas n'importe qui, et certainement qu'il s'en tire très très bien, notamment sur des tempos plus rapides comme ce Charlie's Wig et Bongo Bop qu'on a déjà entendu, mais dans une autre version. Thank you. Charlie's Wig est donc enchaîné avec le deuxième thème qui était Bongo Bop, donc des thèmes plus rapides sur lesquels effectivement Gigi Johnson fait lui aussi merveille. On va retrouver cette fois-ci donc un Miles un peu plus nerveux, dirons-nous, et il va jouer plus de notes que d'habitude, on ne sait pas trop pourquoi, un peu comme s'il voulait retrouver ce que lui avait enseigné Dizzy Gillespie et qu'il avait effectivement abandonné. Et puis dans ce morceau, donc Drifting on a Reed, allez donc savoir pourquoi, il est, on ne peut moins dire que nerveux, il est anxieux j'ai l'impression, et notamment il a peur de ne pas faire aussi bien que Parker, Drifting on a Reed. Thank you. Drifting on a Reed. Alors, Miles Davis n'aimait pas trop le jeu de Duke Jordan. Il lui préférait celui de Bud Powell ou de John Lewis. Et pourtant, dans le thème qu'on vient d'écouter, Duke Jordan se rend compte donc, que Miles est un peu perdu dans son solo. Et c'est lui qui lui sauve la mise en intervenant à brûle-pourpoint parce que eh bien, Miles n'en finit plus de chercher des notes pour terminer ses phrases. Et dans le thème qui suit, Craséologie, donc on peut dire que cette fois-ci, celui qui est mis en valeur, outre Charlie Parker, bien évidemment, ce sera donc Duke Jordan, Craséology. Craséologie donc par le quintet donc de Charlie Parker. Ils vont donc terminer cette séance pour le label Dial et on peut considérer, les amateurs de jazz savent bien, que ces séances Dial sont certainement ce qui s'est fait de mieux dans le domaine du bebop, avec notamment Ross Russell, le patron, qui avait vraiment tenu à ce que Charlie Parker soit la vedette de ce label et soit au sommet de sa gloire avec ses enregistrements. Alors on va donc terminer la séance avec deux thèmes qu'on enchaînera, Bird Feather et How Deep Is the Ocean. Thank you. Voilà, donc c'était cette séance dernière pour le label Dial, et Dieu sait si ce label a fait beaucoup de bruit à l'époque et encore aujourd'hui, parce que tous les amateurs de jazz et tous les amateurs de Charlie Parker savent évidemment que cette séance, ces séances auront été ce que Parker aura fait de mieux avant qu'il commence à travailler et à poursuivre avec le label Savoy. Alors une semaine après l'enregistrement, le quintet va devoir quitter New York parce qu'il faut retourner à Détroit. En effet, ils avaient interrompu l'engagement, mais ils doivent terminer cet engagement. Ils vont donc partir là-bas en bus, et en plus des musiciens du quintet, cette fois-ci, le bus va amener une grande dame, Betty Carter, grande chanteuse bop. Elle déclarera « La musique fait partie de moi, mais la musique qu'il produisait me magnétisait ». Elle partait là-bas pour rejoindre Lionel Hampton, avec qui elle va partir en tournée ensuite. Et bien, pendant le séjour à Détroit, le quintet aura le succès qu'il avait eu avant l'interruption et ce séjour donc à New York. Donc le public est à nouveau attentif à ce que fait Charlie Parker. Ce qui fait que le patron de Savoy va donc approcher le quintet en décidant d'un nouvel enregistrement, d'une nouvelle session. Alors évidemment, Charlie Parker est très intéressé parce qu'il a besoin de plus en plus d'argent, parce que la dope coûte de plus en plus cher et il en consomme de plus en plus, de l'alcool également, à tel point que parfois, eh bien, c'est triste à dire, mais les musiciens qui vont le rendre dans le meilleur possible vont tenter de le sauver en se rendant à son hôtel. Ils vont le trouver là dans un état pitoyable, pratiquement au milieu de son urine, parce que eh bien, Charlie Parker n'est plus qu'une loque, il faut le dire. Et tous tentent de faire en sorte que, malgré tout, on puisse faire de Charlie Parker ce qu'il est, une grande idole, mais dont Charlie Parker sera de plus en plus contraint de se rendre compte qu'il n'est plus ce qu'il était. Il va donc donner sa dernière force dans des enregistrements qui seront enregistrements de légende. Eh bien, Teddy Reich va donc souhaiter un nouvel enregistrement. La date prévue sera donc la dernière dimanche avant Noël. Cette session aura un caractère particulier, celui d'un enregistrement fait à la hâte, parce que Parker a demandé une avance d'argent et par conséquent, il faut donc faire ça avant la fin de l'année 47, parce qu'ensuite, eh bien, Charlie Parker a d'autres ambitions et il envisage donc de quitter définitivement à la fois le label Dial et le label Savoy. Les arrangements seront donc bâclés et sont réalisés pratiquement au minimum de ce qu'il faudrait. On va en avoir un exemple avec le thème Another Hair qui va commencer et finir par un simple riff. En réalité, il s'agit d'une session qui n'aura pas duré plus de 2 heures, Another Hair, par le quintet de Charlie Parker. Thank you. Another Air, donc, par le quintet de Miles Davis avec Charlie Parker, qui est le leader, donc, composé donc de Miles, évidemment, Charlie Parker, Duke Jordan, Tommy Potter, Max Roach. On était donc le 21 décembre 47 et c'est ainsi que va se terminer l'émission. Voilà. On va donc en arriver donc à cette première partie.